France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir au trop-plein de résidences secondaires dans les communes, maisons ou appartements vides une bonne partie de l'année. Il y aurait en France près de 4 millions de sweet home, pardon pour l'anglicisme, 4 millions de doux foyers à la campagne, de chalets à la montagne et autres havres de paix en bord de littoral. Le besoin de changer d'air, donc, il est devenu une quête généralisée pour ceux qui en ont les moyens. Une tendance qui ne cesse d'augmenter depuis les confinements de la séquence Covid. Et sauf que le rêve partagé a fini par poser quelques problèmes dans certaines communes. Et quand les actifs sur place, les locaux donc, doivent aller se chercher un toit plus loin. Il a donc fallu légiférer depuis un an environ dans les communes en tension. La loi Lemeur peut faire interdire les constructions de résidences secondaires, ce qu'on appelle une servitude de résidence principale, et on va détailler ça dans un instant avec la députée qui a donné son nom à la loi, Anaïg Lemeur. Ce soir, on parle de volets clos, de lits froids et de lutte des places, comme disent les géographes.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, celui d'Éric Fournier. Bonsoir, monsieur le maire.
Oui, bonsoir.
Maire de Chamonix-Mont-Blanc. Combien y a-t-il de logements permanents à Chamonix? Pour combien de résidences secondaires?
Alors, à Chamonix, nous avons 4000 résidences permanentes et 10000 résidences secondaires, très exactement. Et sur les 4000 résidences permanentes, déjà 1000 sont opérées par la commune ou par des organismes locatifs qui louent des choses qu'on a déjà, nous, pu mettre pour nos habitants.
Des résidences secondaires qui sont occupées combien de jours en moyenne dans l'année ?
Alors, on a un bon taux d'occupation et on s'en réjouit, hein, parce que on n'est pas anti-résident secondaire, je tiens à le dire. Par contre, notre politique, c'est de retrouver l'équilibre, et c'est vrai que le récent texte législatif, je salue madame la députée, nous permet d'avoir un outil supplémentaire, ça n'est pas le seul, mais qui nous permet d'espérer retrouver l'équilibre entre ces taux de résidence secondaire qui sont trop importants et puis qui, petit à petit, finalement, excluent notre population permanente. Moi, j'ai plus de 600 demandeurs, familles, qui demandent un logement actuellement sur la commune. Donc il nous faut juste trouver et retrouver les équilibres. Cette loi nous y aide.
Recentrer le marqueur. Quelles sont les doléances que vous entendez à Chamonix parmi les résidents à l'année ?
En fait, la grosse difficulté, c'est que le prix, évidemment, du foncier ou de l'immobilier, et notamment post-Covid, a explosé. Et la production de logement social avec des méthodes traditionnelles, comme le font toutes les communes, c'est-à-dire l'acquisition de terrain, la mise à disposition de terrain à des opérateurs, etc., ne suffit pas, hein, je le dis. On est à plus de 25%, pourtant, on n'a pas cette image-là de Chamonix, mais 25% de logement dit social sur la commune, mais ça ne suffit pas, parce que petit à petit, les gens vendent ou louent leur logement pour faire pour avoir une meilleure rentabilité avec du tourisme. On intervient également sur le thème et c'est très complémentaire, de la limitation des plateformes d'intermédiation de type Airbnb et Abritel pour réguler également ce phénomène.
Monsieur le maire, il faut peut-être expliquer à quel point trop de résidences à l'année dans une commune, ce sont des commerces qui ferment, ce sont des écoles, du service public qui ferment aussi ?
Alors oui, ça a une incidence sur la sociologie de la population, parce que petit à petit, en fait, les jeunes ont de plus en plus de mal à rester. Et comme vous le dites, c'est que nos écoles, même si on a un certain dynamisme, une certaine attractivité, c'est pas les jeunes qui peuvent rester, et les jeunes ne peuvent pas s'installer, même avec des salaires très très corrects. Quand on est sur des prix qui peuvent être à plus de 10 000, 15 000 euros le mètre carré, ça peut arriver. On a du 8 000, mais on a aussi du 15 000 ou du 20 000. Effectivement, c'est absolument impossible de se loger et la production de logements permanents est insuffisante. Alors il nous faut faire feu de tout bois pour rétablir cet équilibre qui n'est pas un équilibre anti-touristique mais au contraire qui garantit lui-même, je pense, une qualité de nos sites touristiques, parce qu'un site touristique sans ses habitants, ça ne veut plus rien dire.
Et vous avez donc décidé en mars dernier de revoir le plan local d'urbanisme, un nouveau PLU qui s'appuie sur quel chapitre de la loi Lemeur en vigueur depuis plus d'un an ?
Alors justement, c'est celui que vous citiez dans votre introduction, c'est celui qui nous permet de réserver des terrains avec une possibilité d'installer des résidents principaux. Donc les nouveaux terrains ouverts à l'urbanisation, ça ne concerne pas le bâti déjà existant, mais les nouveaux terrains ouverts à l'urbanisation seront consacrés à Chamonix, effectivement, à la résidence principale exclusivement. C'est un choix qui a été fait par la municipalité, qui est pas facile parfois à expliquer, hein, mais qui est absolument nécessaire, sauf à se retrouver demain comme une sorte de parc d'attractions duquel les habitants sont exclus. Et ce sentiment d'expropriation ou de finalement d'un tourisme qui laisse sur le côté les habitants ne doit pas être conservé. C'est vraiment, je pense, une manière là de réconcilier justement le tourisme avec ses habitants que de prendre ce type de mesures.
Et comment allez-vous vérifier qu'il s'agit bien pour les futures constructions de résidences principales et non pas secondaires?
Alors, il y a du déclaratif, naturellement, mais nous sommes en train, avec les services de l'État, et c'est vrai que je pense qu'on va s'attacher à regarder avec également les maires des autres communes qui ont pris ce type de dispositif, comment nous arrivons à ancrer dans la durée avec des systèmes d'actes notariés, avec des choses qui nous permettent de contrôler effectivement la durabilité de cette mesure.
Avec une volonté de votre part de remettre au goût du jour la mixité sociale à Chamonix ?
Oui, la mixité sociale à Chamonix ou dans les sites touristiques, c'est la mixité entre le touriste, qui est le bienvenu, mais également l'habitant qui est constitutif de la culture de ce tourisme.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Éric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc. Il a neigé à Chamonix, paraît-il, aujourd'hui ?
Oui, ça prépare bien le début de l'hiver. On s'en réjouit.
Très bien.
Merci.
Merci et bon début de soirée. Le trop-plein de résidences secondaires, illustration à présent avec ce reportage. Nous sommes à Villers-sur-Mer, cité balnéaire du Calvados, 2450 habitants. Ici, plus de 80% des logements sont des résidences secondaires et là aussi, la mairie a dit stop en augmentant la taxe d'habitation de 40%. Micro ouvert à Villers-sur-Mer. C'est un reportage de Sandrine Houdin.
Rendez-vous au Café de la Poste. Jean-Jacques, 68 ans, tenait à ce que l'on se rencontre là où il a grandi. Le retraité s'est assis en terrasse. On s'assoit à côté de lui.
Je suis arrivé en 1961, j'avais 3 ans et demi. Mes parents sont venus s'installer comme boulanger sur la place là-bas. La boulangerie qu'on voit à peine là-bas, à droite. Ouais. Donc la place du village, c'était mon terrain de jeu. Maintenant, il n'y a plus de gamins ici, c'est fini. C'était un village avant où il y avait plusieurs écoles, des écoles élémentaires, des écoles primaires. Là, maintenant, il n'y a plus qu'une école. Quand vous avez des jeunes dans un patelin, c'est différent. Je n'ai pas l'impression que les municipalités qui se soient succédées aient pris conscience de ça, qu'on changeait d'âme et qu'on perdait nos écoles, nos enfants, enfin ainsi de suite, quoi.
Ah. On acquiesce à la table d'à côté.
Moi, je suis né à Villers. Et mes ancêtres sont arrivés en 1808. Donc, je connais un peu Villers.
Vous pensez comme Jean-Jacques, Villers a perdu son âme ?
Complètement. C'est plus un village.
C'est quoi ?
C'est une station balnéaire qui fonctionne pendant les périodes scolaires. Point. Donc, la ville est en train de mourir.
Mourir ?
Oui. C'est dramatique. Le mot, c'est dramatique.
Ouais. Parce que c'est mort, l'hiver. Il n'y a rien. Moi, j'ai un copain, il est tout seul dans son immeuble. Il y a au moins 40 ou 50 logements dans son immeuble. Il est tout seul. Tous les volets sont fermés. Les résidences secondaires, ça ne fait pas vivre un village. C'est triste, Villers l'hiver. Très triste.
Aujourd'hui, ça serait quoi ?
Des investisseurs qui achètent des appartements pour les louer en Airbnb. C'est Monopoly.
Ça veut dire quoi ?
Celui qui a le plus de pognon, il gagne. Voilà.
Ça veut dire que vous êtes pour la surtaxe de 40%, donc ?
Alors, il faudrait moduler. Quand vous avez une personne qui habite dans la région parisienne, qui est souvent locataire en région parisienne, et propriétaire d'un appartement à Villers-sur-Mer, qu'il le loue, moi ça ne me pose aucun problème. Ils louent leur appartement, ça leur permet de payer leurs impôts, de payer l'eau, l'électricité, machin, et ainsi de suite. Mais ça, moi j'ai rien contre ça.
Pour eux, ça, la surtaxe est salée.
Voilà. Donc. Mais j'en ai contre les investisseurs qui ne font que ça. Qui prennent du logement, qui au lieu de le mettre sur le marché pour du logement à l'année, ramassent plus de pognon en louant pendant 3 mois qu'en louant à l'année. Quoi. C'est une folie.
C'est ce que vous appelez le monopoly, quoi.
Oui, c'est le monopoly, c'est à qui va en gagner le plus. Que du pognon. Là-bas, toute la rue en descendant, tous les appartements qui sont en haut, ils sont tous inoccupés, alors qu'on pourrait loger des jeunes. Le pizzaïolo qui est ici, il travaille là, il est marié, pas de logement sur Villers.
Ou trop cher.
Il y a beaucoup de personnes qui habitent jusqu'à 15-30 km de Villers pour venir travailler tous les jours.
Alors Jean-Jacques, vous parlez depuis le début de village Monopoly. Qui mériterait la casse prison ?
Les plus gros investisseurs. Bon, ils s'en foutent complètement. Ils se foutent complètement de ce qui se passe l'hiver. Du fric, du fric, du fric.
Enfin, du fric, du fric, du fric. En attendant, nous, on prend, lui retorque, la quasi-totalité des commerçants.
Salut Adrien, monsieur Jean-Marc, bonjour.
Thierry tient un restaurant et cette taxe, dit-il, est complètement débile.
On est sur une ville qui a besoin du tourisme pour vivre. Elle ne vit d'ailleurs que grâce au tourisme. On n'a pas de port de pêche, on n'a pas de grosses industries, on n'a rien. Pour être seul, on va se retrouver seul, mais on sera vraiment, vraiment tout seul sans commerçant. Une grosse partie, la majeure partie, va disparaître. Il y a des résidents qui ont plus de 20 ans d'antériorité dans la vie de Villers. Bah, s'ils trouvent autre chose autre part, ils iront. Voilà.
Première réaction quand vous avez appris que cette surtaxe avait été votée.
J'ai pensé que c'était un gag.
Hop, ça rabigote un petit bout d'andouille.
Cette productrice le pense aussi.
Allez, venez goûter, véritable andouille de Villers, c'est garanti pur port.
Taxer les résidences secondaires.
On est contre, bien sûr.
Effectivement, c'est pas des locaux là qui viennent vous acheter. Hein.
Évidemment, c'est honteux, de toute façon ils prennent de l'argent partout où ils font en prendre. C'est des andouilles, tous des andouilles. Merci madame.
Et bim, micro ouvert de Sandrine Houdin au marché de Villers-sur-Mer dans le Calvados. Vous écoutez Une semaine en France, ce soir sur le trop-plein des résidences secondaires dans les communes. On en parle à présent avec Jean-Laurent Casselli, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste et essayiste, spécialiste des modes de vie, des questions territoriales. D'ailleurs, je renvoie à votre bureau de tendance, Maison Casselli, spécialisé dans ces questions territoriales. Le concept de résidence secondaire, comment est-ce qu'il a évolué depuis les années 60 ?
Effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau en France. Vous avez rappelé l'ampleur du parc de résidences secondaires. C'est près de 10% des logements. C'est un parc qui a explosé en fait, pendant les Trente Glorieuses, à l'avènement de la société de loisirs, hein, quand on a construit massivement des résidences en bord de mer, à la montagne, avec la création des stations ski. Et quand les campagnes se sont vidées de leurs habitants, effectivement, et qu'elles sont devenues plus des lieux de villégiature pour les petites vacances comme en ce moment ou les grandes vacances de juillet-août. Donc c'est vrai que il y a une génération, l'usage de la résidence secondaire était assez bien cantonné dans l'espace et dans le temps. Quand on y allait pendant les vacances, à l'âge de la retraite, on pouvait s'y installer. Et puis c'était aussi, ça touchait certaines portions du territoire. Et puis ce qu'on a vu depuis le Covid, c'est pas que les résidences secondaires ont explosé, contrairement à ce qu'on croit parfois. Il y a pas beaucoup plus de logements en résidence secondaire, mais En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'usage a évolué. Les usages ont évolué. On a vu la figure du télétravailleur, par exemple, apparaître, avec des gens qui sont un peu plus que des touristes dans ces communes balnéaires, mais un peu moins que des habitants à l'année. On entendait la frustration du monsieur tout à l'heure à Villers-sur-Mer. Donc il y a aussi un nouveau partage, je dirais, du territoire. Il y a un nouveau partage entre résidences principales et résidences secondaires pour beaucoup de gens.
Vous nous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas donc un, mais des profils de propriétaires de résidences secondaires. Peut-être les héritiers d'un côté et puis les investisseurs de l'autre.
Oui, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'il y a plusieurs types de multipropriétaires, parce qu'en fait, on se rend compte que la France des propriétaires, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont des petits multipropriétaires, c'est-à-dire qui en fait ont effectivement hérité d'un appart, par exemple en bord de mer ou à la campagne, et qui ont fini de payer leur crédit pour leur résidence principale et qui vont se retrouver la recomposition familiale, parfois à la tête de effectivement plusieurs apparts, et qui sont des gens qui vont mettre au début, de manière plutôt honnête, j'allais dire, leur bien en location, justement pour en optimiser en fait la rentabilité, mais aussi, et ce qu'on a entendu dans les reportages, pour payer les charges, pour payer les impôts. Voilà, c'est vrai que ça coûte cher. Les gens vous disent souvent, alors ça peut paraître violent pour ceux qui sont locataires, mais les gens vous disent ça coûte cher moi j'ai beaucoup entendu ça, ça coûte cher d'avoir une résidence secondaire, et de fait, si vous regardez les charges, les impôts, faut, et surtout la consommation d'énergie, eau, électricité, ça coûte cher. Donc les gens sont un peu pris, si vous voulez, dans une sorte d'injonction contradictoire entre cette histoire de volet clos et de concurrence entre les habitants à l'année, les habitants et les touristes, et cette envie qu'ils ont de garder leurs biens et donc en fait d'en faire de la location. Oui. Et parfois avec un déséquilibre, c'est ce qu'on a vu, hein, ce qu'on a entendu sur Chamonix ou sur Villers-sur-Mer, c'est parfois avec une sorte de déséquilibre ou de brouillage entre les catégories de logements et d'habitants, hein, c'est-à-dire ceux qui sont là vraiment à l'année, les natifs ou en tout cas les gens qui sont ancrés, qui ont un commerce, qui sont enseignants, etc., et ceux qui vont un peu picorer du territoire, mais qui n'y s'y ancre pas vraiment.
Et cette petite tension entre les résidents à l'année et les résidents secondaires, j'ai souvenir que ça existait durant la séquence Covid, hein, notamment en Bretagne ou au Pays Basque, notamment le phénomène identitaire reprenait le dessus.
Ça a été le climax de ce conflit d'usage. Évidemment, les Parisiens et les citadins de manière générale sont rentrés chez eux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le reflux n'a pas été total parce que, je l'ai dit, voilà, avec le télétravail, avec le TGV, avec les nouveaux usages, il y a une perméabilité entre les lieux et les moments de vie. Donc, vous avez ces gens qui sont un peu plus que des touristes, un peu moins que des habitants à l'année. Et puis, vous avez effectivement le fait que les gens maintenant qui investissent aiment bien aussi se faire plaisir. Donc, ils vont investir d'une manière pas toujours super rationnelle dans un endroit qui leur plaît. Et donc, ils vont se dire, je vais acheter au soleil ou je vais acheter sur la côte atlantique parce que un jour ou l'autre, je serai content d'y aller le week-end ou à la fin de ma vie, quand je serai à la retraite. Donc, c'est vrai qu'il y a cette concurrence. Et je pense que derrière la question du surtourisme, comme on l'a dit sur Chamonix, ou la question parfois de ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire la concurrence effectivement pour les logements dans des quartiers populaires ou dans des lieux qui n'étaient pas regardés il y a une génération comme des lieux touristiques, il y a évidemment, en effet, il y a cette question d'une concurrence en fait pour habiter dans les endroits les plus agréables. Et aujourd'hui, on est aussi dans une société dans laquelle on veut une qualité de vie à l'année, pas seulement pendant les vacances, pas seulement à l'âge de la retraite. Et c'est ça qui a, je pense, le gros sujet qu'il y a derrière. C'est pour moi, c'est ça.
Il y a une expression que les géographes utilisent, et vous aussi d'ailleurs, la lutte des places. Ça vient comment, la lutte des places? C'est quoi exactement?
C'est exactement ça, c'est quand finalement le résidentiel et le touristique se brouillent et que vous avez envie, dans toutes les enquêtes, les sondages, quand on demande aux gens où est-ce qu'ils ont envie d'habiter, ils ont envie d'habiter plutôt dans une ville à taille humaine, plutôt dans un cadre de vie agréable, mais aussi avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des services et évidemment des emplois. Donc ils cherchent parfois le meilleur des deux mondes. Si je caricature, entre la banlieue grise et l'appartement à la mer, évidemment, ils ont envie d'avoir la qualité de vie de l'appart à la mer, mais là, encore une fois, le dynamisme économique et social d'une grande ville. D'où cette tension qu'on voit parfois entre des portions du territoire qui sont, on pourrait parler aussi des grandes villes, hein, à Paris, c'est le cas aussi, vous avez effectivement des gens qui veulent passer une semaine à Paris pour visiter la Tour Eiffel, et des gens qui veulent y travailler à l'année, et tout ça, se surajoute et crée cette tension sur le marché du logement.
Vous parliez de Paris, du Sud. Où se trouvent aujourd'hui les marchés dits en tension? Dans quelle région précisément? Dans quelle zone géographique?
Alors, effectivement, sur les littoraux, sur la côte méditerranéenne, mais également atlantique, dans les grandes agglomérations et leur première couronne. Mais c'est vrai qu'on voit depuis quelques années également une diffusion de la crise du logement, en tout cas des tensions locatives dans des villes plus moyennes. Hein. On voit une sorte de contagion de ce phénomène à des portions, je dirais, de plus en plus nombreuses du territoire. Il y a des auditeurs qui peut-être nous écoutent et qui se sentent pas du tout concernés parce qu'en fait, ils sont plutôt dans des toutes petites villes ou dans des villages dans lesquels il n'y a pas forcément de touristes et à l'année et dans lesquels finalement on se loge facilement. Mmh. Mais c'est vrai que beaucoup de Français sont confrontés. Merci. Aujourd'hui à ces questions d'accès au logement.
Merci beaucoup Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions territoriales. Et puis donc je renvoie à votre bureau de tendance baptisé Maison Casselli, spécialisé donc dans ces questions territoriales. Vous écoutez Une semaine en France. On s'intéresse donc ce soir au trop-plein de résidences secondaires. Un grand merci à Juliette Gou à la réalisation, Sérine Ben-Younès qui m'a aidé à préparer ce 18-20. Just Two Girls, c'est un des titres du dernier album du groupe britannique Wolf Alice, et c'est le choix de Djoubaka.
France Inter, le 18-20.
La suite d'une semaine en France à propos des résidences secondaires. Quand elles deviennent trop nombreuses dans la commune, les volets clos, les lits froids, avec quelles conséquences? Eh bien, on en parle avec notre troisième invité. Bonsoir Anaïs Glomer.
Bonsoir.
Vous êtes députée Renaissance du Finistère, co-autrice de la loi Lemeur et Chanise qui permet notamment de taxer les résidences secondaires ou d'en interdire la construction neuve dans les villes en tension. Madame la députée, que dit votre loi précisément pour justement redynamiser le cœur des villes quand les volets restent fermés la plupart de l'année?
Alors, c'est pas notre loi déjà qui a permis la taxe, c'était en amont, c'était pas nous.
Ça existait avant.
Ça existait avant. Nous, ce qu'on a permis, en fait, c'est une loi qui avait plusieurs volets, là, je vais dire aussi, je vais reprendre le terme. Un premier qui était la nécessité, en fait, d'identifier les biens, donc il y a toute une nécessité d'avoir un numéro d'immatriculation, de pouvoir s'enregistrer en mairie. Les mairies qui le souhaitent, en fait, peuvent mettre en place un changement d'usage. Ils pourront mettre des quotas, décider, ben, moi, je veux tant de résidences de courte durée sur mon territoire, donc je donne une forme de licence, un droit à louer, entre guillemets, pour ces résidences de courte durée à vocation touristique. Et ensuite, en fait, il y a plein d'outils dans la boîte. En fait, c'est vraiment une boîte de décentralisation, c'est-à-dire qu'on laisse au maire de choisir.
Ça veut dire que c'est bien le maire qui choisit. Hein,
c'est le maire qui choisit, et on n'a pas mis de critères, zone tendue, zone détendue, parce qu'on considère qu'une commune qui a de la projection sur son économie, sur son activité ou autre, doit pouvoir décider à un moment de faire du préventif, plutôt que de faire du curatif.
Vous pensez qu'il y avait le seuil des 20% de résidences secondaires?
Alors ça, c'est pour les résidences secondaires. Ça, je reviens, c'est sur la partie qui nous concerne ce soir. Donc effectivement, il y avait une particularité qui était la servitude de résidence principale. Donc là, effectivement, elle concerne uniquement les communes qui sont ce qu'on appelle en zone tendue, des zones où il y a vraiment de la tension pour se loger. Et il faut avoir aussi plus de 20% de résidences secondaires. Ça s'applique donc uniquement sur les biens qui vont être construits à venir,
en devenir,
uniquement sur ces biens-là. Donc on pourra toujours faire de la résidence secondaire dans de l'ancien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On n'interdit pas la résidence secondaire, mais elle se fera uniquement dans l'ancien, ce qui permettra aussi de réhabiliter des biens qui ont besoin d'être vus et rénovés. Et le reste, en fait, ça sera uniquement en fait, dans les biens à venir. Et c'était une mesure qui était indispensable que de les faire que dans les biens à venir, parce qu'autrement on était un peu en porte-à-faux vis-à-vis du droit de propriété, on ne pouvait pas l'appliquer sur des biens qui étaient déjà préexistants.
Et depuis sa parution au Journal officiel, il y a environ un an, combien de communes ont fait appel à votre loi?
Alors, je vais prendre ma petite liste.
Vous avez une note sous les yeux?
Oui.
Je vois tourner la page.
Voilà, je tourne la page, effectivement, de celles qu'on a identifiées. Mais après, il y a pas mal qui sont en cours, en fait. Notamment, on est en amont des municipales. Donc, ça va être un projet qui va être porté par beaucoup de communes au niveau des municipales. Je suis souvent contactée, justement, par des communes pour pouvoir le mettre en place. Actuellement, de ce que j'ai vu, on avait Château d'Oléron, Cancale, Royan, La Rochelle et Chamonix, notamment, qui l'ont déjà mise, en fait, dans leur PLU. Et le font de façon différenciée. Moi, je suis beaucoup les dossiers, et notamment à Cancale, elle a fait vraiment du maillage, de la broderie, si l'on veut, pour faire une carte qui soit équilibrée, qui n'interdise pas tout. Mais l'objectif était vraiment de maintenir des services publics, notamment des commerces et une identité territoriale.
Et du service public, évidemment. On a entendu le maire de Chamonix tout à l'heure dire combien il était inquiet sur la montée des prix, la flambée des prix. Savez-vous, un an après, dans quelle mesure votre loi a permis de réguler cette flambée des prix dans les zones tension touristiques et pour les résidences secondaires?
Alors pour l'instant, on n'a pas forcément encore de retour. L'évaluation d'une loi se fait à un an et à trois ans, donc on fera l'évaluation, on va la solliciter bien évidemment. Bon, les retours que l'on a, c'est qu'on a surtout aussi des biens qui ont rebasculé sur la location à l'année. C'est le cas notamment à Quimper, donc, où quelques biens ont rebasculé dans de la location à l'année. On sent qu'il y a cette... d'en avoir parlé, ça a été un petit peu une prise de conscience aussi pour les populations de s'impliquer aussi dans la vie de leur territoire. Donc on sait qu'il y a un retour. Après, sur le prix, pour l'instant, il y a aussi d'autres outils qui permettent de réguler le prix. Donc du coup, on n'est pas l'outil unique pour pouvoir le permettre. Et après, le prix, il se structure aussi avec d'autres facteurs qui sont aussi, la rareté, c'est vrai, mais aussi combien on emprunte. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de critères.
Reste aussi la question du contrôle. Comment le maire peut-il être certain que nouvel projet de construction dans sa ville en tension. Je posais la question tout à l'heure au maire de Chamonix. Comment être certain que les futurs projets seront bien destinés à des habitations permanentes et non pas à de la résidence secondaire?
Alors, ce qu'on en a fait en mettant une servitude notamment, c'est écrit dans les actes notariés. Donc déjà,
dès le notaire,
c'est écrit,
ça apparaît.
C'est écrit comme une servitude pour une servitude de passage, une servitude vis-à-vis d'un puits, etc. C'est écrit dans le document notarié. Donc ça permet effectivement, même si on transmet son bien, ça sera toujours notifié. Ça suit en fait la vie du bien jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de rupture au moment d'une vente ou autre. Ça continuera. Donc ça, c'est une première étape. On met aussi en place des plateformes au niveau, ce que je vous parlais tout à l'heure du numéro d'immatriculation, qui va être une plateforme qui va être mise en place en 2026, en mai 2026, qui va nous permettre justement d'identifier mieux les biens et leur vie. Et on a commencé déjà avec gérermonbienimmobilier.fr, qui est une obligation de déclarer en fait son bien sur le site du gouvernement.
gérermesbiensimmobiliers.fr, c'est bien ça?
Exactement, donc il y a une obligation, hein, chaque propriétaire doit le faire. Donc on a vraiment une nécessité de capter ces données et de pouvoir en faire le suivi. Après, on compte aussi sur les collectivités, bien sûr, pour faire aussi le travail, mais on sait très bien qu'ils n'auront pas tous les moyens de le faire. On est aussi conscients, donc ce sera à nous de nous organiser sur les données, avec un recoupement par rapport aux données fiscales.
Ça veut dire qu'en cas de tromperie, le maire pourrait agir et résilier le bail? Faire résilier le bail?
Alors, il n'y a pas forcément de bail, parce qu'on peut être propriétaire occupant.
Vous avez raison.
Voilà, on peut être soit locataire, soit propriétaire occupant. Je pense qu'il y a... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'on avait mis dans la loi en termes d'amende, effectivement. Après, on a dû le permettre, effectivement, d'avoir une amende avant de dire une résiliation ou une interdiction.
Je reviens à l'objectif de votre loi. C'est donc bien pour redonner de la vie dans les communes qui ont perdu des services publics ou des commerces. Il ne s'agit pas pour autant de bannir les résidences secondaires. L'esprit de la loi, c'est bien ça?
Ah, l'esprit de la loi, elle est vraiment en ce sens. Et puis c'est que les biens à venir. Je reviens dessus. C'est pas les gens qui actuellement ont des résidences secondaires ne seront pas du tout concernés par ce type de proposition et de dispositif. C'est pour limiter la hausse, en fait.
Il y a aussi un cercle vertueux pour les propriétaires qui louent leur résidence secondaire. En principe, ce sont des gens qui rénovent, qui investissent et qui consomment sur place.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on en a conscience. Ils consomment sur place, ça crée un dynamisme. Mais de l'autre côté, on a aussi des résidents à l'année, parce qu'ils consomment, il faut avoir des services, il faut avoir des commerçants, il faut avoir des services de santé. Et qu'on a de plus en plus de mal à capter sur ces territoires, parce que, effectivement, il y a la rareté qui fait monter le prix. Et en plus, ce sont souvent des territoires très attractifs. Donc on se retrouve en difficulté avec, effectivement, des logements qui manquent aussi pour des travailleurs à l'année et qui se mettent à aller de plus en plus loin. Il y a des zones de déport et donc, du coup, des consommations d'énergie par rapport au transport, etc., qui se font. Donc, il y a un moment où il faut quand même garder cette identité. Ça a été très bien dit tout à l'heure. On n'est pas des lieux de vacances, des villages vacances. C'est pas ça que veulent... On veut une mixité de tourisme
et
de formes d'économie.
Défendre aussi l'identité d'un territoire, hein, que ce soit en Corse, en Bretagne ou aux Pays-Bas, ça a fait partie aussi des motivations qui ont généré cette loi?
Alors, effectivement, au début, vous l'avez un petit peu suggéré tout à l'heure. Au début, il y a eu quand même pas mal de manifestations sur nos territoires par rapport au volet clos, notamment, avec des manifestations qui étaient plus de politique, entre guillemets, plus régionaliste, et qui disaient on doit maintenir, en fait, la résidence avec un statut de résident, par exemple, breton. Donc, du coup, ils voulaient que la résidence soit captée uniquement par les Bretons.
C'est un peu délicat à défendre.
À niveau de la Constitution, ça passe pas.
Oui, on est
dans la République quand même, donc il y a un moment où donc on a travaillé avec eux malgré tout, pour pouvoir justement avoir des idées et des opportunités pour faire cette loi.
Eh bien merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir sur France Inter, Adaïg Lemeur, député Renaissance du Finistère. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon début de soirée. À suivre, le multiplex des régions avec les journalistes du réseau ici. Nous ferons étape dans les Vosges, dans le Berry et en Normandie.
Il est 6 heures, clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envole, il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile et nous retrouverait, nous retrouverait. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux.
La voix d'Alain Bachung qui a revisité Les mots bleus de Christophe. À la technique ce soir, Ludovic Asselot, Arnaud Caillé et Thilaï Ravu. Merci à tous les trois.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des journalistes du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Lorraine, ICI Normandie, ICI Berry, Clément L'Huillier, Lila Lefebvre, Carl de Châtres. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer dans les Vosges. Clément L'Huillier, avec des problèmes de polluants éternels à cause des PFAS, l'eau du robinet a été interdite dans deux villages ces deux dernières semaines.
Oui, à quelques jours d'intervalle et une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau à Arentès de Corcieux. Tout d'abord, il y a 170 habitants. Ça faisait plusieurs semaines qu'une association écologiste alertait sur des taux trop élevés de polluants éternels, 8 fois supérieurs à la limite autorisée. Et ce n'est que le 14 octobre, la semaine dernière donc, que la préfecture a décidé d'interdire la consommation de l'eau du robinet. Après une réunion publique où la presse a été soigneusement tenue à l'écart, c'est vous dire l'ambiance. Lundi dernier, même constat, même effet, cette fois sur la commune de Tendon, environ 500 habitants avec des taux malgré tout un peu moins élevés. Mais donc, la distribution d'eau s'organise dans ces villages. Une bouteille d'eau par jour et par personne. On cherche aussi d'autres captages. On s'en remet un peu aux sources privées sans savoir exactement combien de temps tout cela va durer.
Et la question maintenant, c'est de savoir d'où viennent ces polluants éternels, Clément.
Oui, par exemple, le captage qui est pollué à Tendon, il est à 600 mètres d'altitude. On est en pleine montagne, dans une clairière dans la forêt. Mais il y a 15 ans, ces prairies recevaient encore des boues d'épandage issues de l'industrie. C'est donc une piste à construire. Confirmé pour le maire de Tendon, reste que les habitants sont inquiets pour leur santé. Ils sont en colère aussi parce que beaucoup estiment qu'on les a laissés boire cette eau trop longtemps, sans prendre de mesures. Pas de commentaire du côté de la préfecture des Vosges qui évoque simplement un plan d'action, je cite, pour rétablir la conformité de l'eau aux normes en vigueur.
Et après les Vosges, la Normandie, Lila Lefebvre, nous sommes à Longroix précisément, en Seine-Maritime. Là-bas, l'entreprise Géniver, spécialisée dans le tri des flacons de parfum de luxe. Cette entreprise est en liquidation judiciaire, PME, qui est l'une des entreprises de ce qu'on appelle la Glass Valley, ce territoire qui produit 70% des flacons de luxe dans le monde. Et c'est donc tout un secteur qui est inquiet, Lila.
Oui, car un autre signal, un alerte dans cette vallée du verre, la Glass Valley, qui fait vivre 7 à 10 000 personnes ici, c'est la baisse Concernant nos périmères, les agences que nous avons contactées nous confirment que les verriers leur demandent moins de monde, 2-3 personnes contre une centaine il y a un an pour certains sites. Et surtout, les usines anticipent moins qu'avant. Les demandes de renfort s'arrêtent en décembre pour cette année. Les industriels nous confirment que la production de flacons de parfum accuse un sérieux coup de frein et donnent deux explications. Le Covid d'abord. Le secteur des flacons de luxe a connu un boom après la crise sanitaire. Les verriers normandes étaient à saturation et ce, jusqu'à l'an dernier. Et la deuxième raison, bien, c'est la crise politique et les tensions internationales. Et les grandes entreprises du luxe, LVMH, Hermès, pour ne citer que elles sont frileuses, elles baissent leur stock et ça se répercute dans les carnets de commandes des verreries normandes. Une histoire qui se répète ici dans la vallée du Verre. Après le Covid, les producteurs de bouteilles pour les spiritueux haut de gamme, cette fois, avaient connu une période faste qui a duré moins longtemps et ça s'est traduit l'été dernier par un plan social chez Saverglass, usine installée au Havre avec une centaine de postes supprimés.
Lila Lefebvre en Normandie. Nous partons dans le Berry, Carl de Châtre, dans l'ouest de l'Indre précisément, au cœur du parc naturel régional de la Brenne, appelé aussi pays des mille étangs. On y pratique la pisciculture depuis des siècles. Et bien justement, la saison des traditionnelles pêches d'étang vient de s'ouvrir pour 4 mois, Carl.
Effectivement, Eric, 800 tonnes de poissons en moyenne sont pêchées chaque année dans ces 3000 étangs, essentiellement par une dizaine de pisciculteurs professionnels encore actifs et qui pratiquent plus ou moins les mêmes gestes depuis près de 800 ans. D'abord la vidange de l'étang, dont les plus grands couvrent tout de même plus de 100 hectares. Ensuite, à la sortie du plan d'eau, on encercle les poissons dans un filet déroulé par des pêcheurs immergés jusqu'à la taille. Enfin, les poissons piégés sont extraits à l'aide de la filanche, comme on l'appelle ici, et on remonte de la tanche, du gardon, des brochets, mais surtout de la carpe. 60% de la pêche en moyenne. Ce poisson se vend très bien en Europe de l'Est. C'est un plat traditionnel de Noël en Slovaquie, Pologne, République tchèque, Allemagne et même un peu en Alsace. Mais depuis quelques années, ce n'est pas tant pour être consommé que la carpe est vendue, mais pour être repêché. Car ce poisson, méfiant, puissant et combatif, est très prisé des pêcheurs à la ligne qui payent cher pour un spécimen vivant dans leur étang. Et si vous êtes curieux de découvrir ce spectacle de pêche traditionnelle, Eric, eh bien, des visites commentées sont organisées jusqu'à la mi-décembre, certaines avec dégustation. Il faut se rapprocher de l'office de tourisme du parc naturel régional de la Brenne dans l'Indre en Berry.
Eh bien, merci beaucoup et merci à tous les trois. Le multiplex d'ici et d'ailleurs avec le réseau ICI, ex-France Bleu. Est-il encore besoin de le rappeler? À suivre le journal de 19h.